dans un nouvel épisode du MC Talks. Alors que les fêtes arrivent à grands pas, je vous propose un voyage dans les coulisses de la magie de Noël. Nous allons partir dans le Jura à la rencontre d'un créateur de jouets pour une entreprise française vieille de plus de 100 ans. Avant de vous faire écouter ma conversation avec Éloi, je voulais vous faire passer un message. Je ne pensais pas que faire ce podcast me plairait autant. Rencontrer ces personnes et vous inspirer me procure un bonheur de fou. Alors si vous voulez m'aider à continuer ce rêve, il faut que ce projet soit de plus en plus visible. Et la seule solution pour être visible est simple. Il faut que vous cliquez sur « Je m'abonne » et il faut que vous partagez autour de vous. C'est gratuit et ça change une vie. Encore merci et bonne écoute.
Donc c'est un épisode un peu spécial Noël aujourd'hui où on rencontre Eloy ou Eloi, comment Eloy, c'est ça?
Eloi,
ok. Alors dis-nous Eloi un peu qui tu es, que fais-tu sur la planète Terre.
Alors direct qui tu es, la question hyper ouverte et compliquée. un doux rêveur, un artiste certainement, et effectivement un bel article sur Noël, mais... Si ça se trouve, tu n'aurais pas pu me trouver si je n'avais pas eu cette petite étoile qui avait fait que j'avais eu ce parcours-là. Parce qu'en fait, il y a le Père Noël qui m'appelle.
Il y a déjà le Père Noël qui t'appelle.
Ouais, il y a déjà le Père Noël. Hop, alors, attends. Hop, je réponds plus tard. Voilà. Bon, ça, il faudra que je te parle d'ailleurs de ça.
Bon, j'ai pas entendu.
Il faudra que je te parle de ça, justement, de cette personne qui m'a appelé. C'est une belle aventure qu'on a fait l'an dernier avec l'Élysée.
Ok, d'accord.
C'est pas Macron, qui m'appelait.
Ah, c'est ça, il y a Macron qui t'appelle d'un coup pendant notre rencontre.
Je dirais comme ça, direct, c'était je me suis dit, tiens, Macron, là, Emmanuel, tu m'appelles, là, dans 5 minutes, on commence l'interview. Non, je te raconterai cette aventure qui est vraiment belle, qu'on a fait l'an dernier avec l'Élysée, et je t'expliquerai effectivement comment on est arrivé là. On va retomber peut-être sur le début, donc j'en étais où. Oui, j'ai failli pas faire ce métier, en fait.
C'est-à-dire
j'aime autant la musique que le dessin, que la cuisine, donc j'adore tout ce qui est art en général.
Et tu voulais faire quoi?
Et je m'étais destiné à faire de la musique au départ.
Ok, ah oui, vraiment différent.
Ouais, j'ai commencé tout petit en fait, à 6 ans j'ai commencé la musique, donc d'abord par le piano, le solfège, le truc un peu rébarbatif.
Ok.
Et j'étais comme un dingue à vouloir faire de la trompette. Parce que d'accord, c'était magnifique, ça brillait, les fanfares que je voyais passer, mais vraiment la trompette, c'était le truc que je voulais faire. Et puis, en général, à 6 ans, tu ne commences pas la trompette parce que tes poumons ne sont pas encore forcément bien développés. Et donc, j'ai commencé par le piano, ça m'a vite gavé. J'ai continué avec un petit peu de trompette, puis au bout de 6 mois, finalement, le rêve a été un peu retombé direct. Et je suis passé aux percussions.
Ok.
Mais j'ai adoré les percussions, en général. Donc, je fais de la batterie, percussions en tout genre et... Et comme j'étais pas très scolaire, ça a été vraiment le truc qui m'a motivé toute ma scolarité, qui a été un petit peu mes cours de récré régulières.
Okay.
Et sorti du bac, je me suis dit, allez hop, j'en fais mon métier.
Ouais.
Et j'ai eu des gros problèmes de ligaments au poignet. Alors, quand tu tapes 7-8 heures par jour sur des échos, des claviers, etc., c'était pas possible. Donc, je suis retombé à mon deuxième amour, le design.
Ok. Quand tu dis deuxième amour, tu nous as pas parlé de design dans cette enfance?
Ouais, dans cette enfance, en fait, j'adore dessiner. J'ai toujours adoré dessiner depuis tout petit, pareil. J'aimais beaucoup dessiner, beaucoup bricoler. J'étais un pro du Lego, pro du bricolage. On était tous les étés à la campagne à jouer avec des bouts de bois. Et mon père, super bricoleur, avait un super atelier. Je passais une journée dedans à inventer des trucs.
Okay.
Donc déjà prédestiné aussi, je m'étais fait un flipper en bois à l'époque, avec des élastiques, avec des bouts de bois dans tous les sens, je m'étais bien éclaté. Et c'est assez marrant, puisque l'an dernier, j'ai créé un flipper pour Milac, pour qui je travaille actuellement, avec cette petite arrière-pensée en me disant, la vie a quand même pas mal d'humour pour que je me remette à refaire un flipper, je sais pas, c'était facile 30 ans là aujourd'hui.
Ah, c'est quand même un fil rouge chez toi en fait.
Ah, il y a quand même un fil rouge, il y a des choses qui reviennent régulièrement. Je crois que j'ai gardé vraiment mon âme d'enfant. Et pour créer de toute manière, en plus dans le milieu de jouets, il faut quand même être toujours un rêveur, continuer à avoir des rêves en tête et vouloir les accomplir, effectivement.
Et sur ton titre, sur LinkedIn, par exemple, on voit directeur marketing, donc on n'imagine pas du tout un artiste derrière ce nom. Tu fais quoi exactement? C'est quoi Ce qui est marqué directeur en marketing et design, il me semble.
Ouais, marketing, design et communication.
Okay.
En fait, j'ai toute cette casquette-là parce qu'en plus, dans une PME, on est souvent multicasquette et c'est difficile de faire qu'un métier. Les effectifs ne sont pas extensibles à l'infini. Et ma formation de base, c'est une formation de designer produit.
Okay.
Donc, on est préparé. J'ai fait l'école ENSAMA, c'est une école d'art appliqué à Paris.
Okay.
Où je côtoyais des gens en graphisme, en architecture, des métiers d'art, des gens qui faisaient de la laque, de la céramique, du métal, et des métiers un peu plus pour l'industrie, donc le design graphique dans les agences de pub en général ou dans intégrer les entreprises, et le design produit, que tu peux retrouver dans les plus gros postes pôles de design, c'est l'automobile en premier, où il y a des designers intégrés. Et puis des marques comme Decathlon où il y a, je ne sais plus combien ils sont, mais une centaine de designers pour créer toutes leurs produits.
C'est eux qui créent tous leurs produits. Donc,
quasiment tous eux-mêmes, effectivement. Ce qu'ils ont en marque propre, ouais, ils ont des pôles dans chaque région de France, c'est absolument fabuleux. J'avais failli t'embaucher d'ailleurs chez eux, hein. J'avais passé 3 entretiens, on a arrivé chez Villac finalement.
Ok.
Mais toujours avec ce fil de vouloir aussi éduquer par l'objet.
Okay.
Donc, sport, ça m'intéressait vraiment comme domaine. Et puis le jouet, c'était toujours le jouet à l'enfance, ça a toujours été un fil conducteur aussi dans mes études aussi.
C'est-à-dire pendant tes études, tu continuais à créer, enfin à designer des jouets, à les dessiner.
Ouais, on avait pas mal de sujets variés et en général, c'était des sujets assez ouverts. Je crois qu'on avait fait un. Pourquoi j'en étais arrivé à faire ce projet-là? J'ai fait un compas pour. C'était pour la marque Mapad.
Mapad?
Ouais, Mapad qui fait des accessoires, des règles, des calculatrices, des
ciseaux. Ah oui.
Donc plutôt pour les enfants au départ. Et je m'étais éclaté à faire un truc complètement délire avec des petits personnages qui tournaient sur eux-mêmes pour faire un compas. Je m'étais bien éclaté. Et les profs à chaque fois me disaient, mais avec ton âme d'enfant, j'étais vraiment toujours à détourner les sujets pour que ça soit très enfantin, assez. Ouais, toujours un peu sortant des sentiers battus.
Ok. Et comment tu t'es retrouvé chez Villac? Parce que c'est une entreprise, comme tu dis, c'est une PME. Vous êtes combien d'employés chez Villac?
On est une cinquantaine. Ça fait partie d'un groupement de marques avec Jujura, qui est les petits chalets en bois qu'on construit soi-même, qu'on a tous eu gamin.
Ah,
et Petit Colin, qui est la dernière fabrique de poupées en France,
okay.
qui est pour le coup dans la Meuse à Étain. Et là, c'était le Corolle du début du XXe siècle. Il y avait jusqu'à 2000 employés là-bas à l'époque.
Wow.
C'est eux qui ont inventé le bébé dormeur avec les yeux qui dorment tout seul pour les poupées, les bébés baigneurs qu'on met dans l'eau. Donc, c'était vraiment la pointe de la poupée au début du XXe siècle. Aujourd'hui, ils sont plus cuites.
Ah ouais.
Donc, la roue tourne, les choses.
Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que quand j'ai cherché, donc je voulais chercher pour cet épisode de Noël, je vais chercher quelqu'un qui crée des jouets, ça va être génial. Et je voyais qu'il y avait de moins en moins d'usines en fait qui faisaient ça, ou de moins en moins d'artisans qui faisaient ça en France.
Ouais, mais c'est le problème, c'est qu'on est toujours confronté au Made in France très très compliqué.
Plus cher, beaucoup plus cher.
Bah ouais, la main-d'œuvre coûte très cher, c'est surtout ça, ouais. Toutes les charges. On est aujourd'hui toujours 2 fois plus cher que l'Asie.
Oui, c'est pour
donc
ça que c'est...
Et puis, les artisans s'éteignent les uns après les autres. On a pas mal qui ont bossé dans le Jura, qui ferment boutique sans reprendre derrière. Donc, ça, c'est triste. Hein. Et on a des savoir-faire qui sont bons comme ça. Et c'est dur, même pour nous, de trouver des gens qualifiés dans notre usine en France.
Wow. Et toi,
sachant qu'on ne fait pas que ça, d'ailleurs. Hein, on fait de l'Asie obligée par la mondialisation et obligée par une concurrence qui nous fait pas de cadeaux. Donc, on a un mix des deux. C'est dur à faire comprendre au consommateur qui comprend qu'il achète un téléphone high-tech fait en Chine en mettant la tête sous le sable comme une autruche en disant « bon, je ne sais pas savoir si c'est fait en Chine, mais je l'achète quand même ». Dès que ça touche sur le domaine de l'enfance ou sur des manufactures anciennes comme nous, c'est compliqué d'expliquer cette double production.
Oui, bah parce qu'on a l'image… Je sais pas,
l'artisan,
le téléphone. Mais... En fait, je pense que c'est ancré, c'est normal, c'est en Chine, voilà.
Je pense qu'il y a de ça aussi. Ouais.
C'est comme mais ça.
Ça choque plus sur certains projets, c'est pas certains produits, ça choque moins effectivement sur d'autres. On a l'odeur du bois effectivement. Et puis c'est le cas hein, quand on va apprendre en France, on a l'odeur de lac, de bois.
En faisant des recherches sur toi, ça m'a donné envie d'acheter même n'importe quel jouet pour voir la fabrication, voir comment c'est fait. Mais juste, en fait, la question qui sous-tendait, c'était toi, quand tu sors des études, avec dans une industrie qui s'éteint un peu en France. Comment toi tu trouves Villac? Comment tu dis je vais aller là-bas?
C'était encore une histoire de bonne étoile, hein, parce que je crois que là effectivement c'est marrant, il faut tu fais tes interviews par rapport à des étudiants qui cherchent leur voie, qui cherchent ce qu'ils veulent faire plus tard et des métiers souvent passionnants, parce que je vois de plus en plus avec moi les gens que j'embauche dans le service, les gens cherchent de plus en plus des métiers passion, ont plus envie de s'emmerder avec des boulots répétitifs. Ouais. Et moi, c'était un hasard fabuleux. Donc, j'étais en train de chercher du boulot région parisienne sortie de diplôme. En fait, j'ai fait 2 ans, 3 ans en sortant d'études où j'avais fait beaucoup de 3D. J'adorais ça aussi, les images 3D. En plus, on était à peu près au début de la 3D que tu peux retrouver dans les films de Pixar, les premiers Toy Story. Moi, j'étais baigné là-dedans, étudiant. Et j'étais fasciné par ces images, ces films d'animation. C'était vraiment les débuts de la 3D avec, effectivement les premiers super effets spéciaux. Et donc, j'ai commencé à en faire beaucoup pour l'ISAN parce qu'on s'en servait, on commençait à s'en servir de plus en plus. Et au niveau des études, c'était les balbutiements aussi de ces technologies. Et à sortie d'études, j'étais embauché directement pour faire de la 3D dans une entreprise d'événementiel.
Ok. Donc là, tu étais à Paris, toujours ?
J'étais toujours en région parisienne, ouais. 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 Ça m'a vite agavé, finalement, de plus avoir de concret, puis avoir d'objets à toucher. Et je me suis dit, il faut vraiment que je trouve autre chose. J'ai démissionné du jour au lendemain. Donc, vraiment, le truc complètement stupide quand t'as 24 ans, ouais, t'as rien derrière, mais bon, c'est comme ça. Je me suis dit, non, allez, c'est bon, je trouverai facilement derrière. Surtout que, ouais, on est allé me chercher à la sortie de mon diplôme. Hein. Donc, je me suis dit, c'est bon. Mon boulot, j'en trouverai un autre. Dans une semaine, j'en ai un nouveau. Hein. Bon, du coup, ça a été un peu plus compliqué. Hein. J'ai passé un an à faire du freelance, à faire des petites missions pour diverses entreprises, ce qui était aussi assez enrichissant et intéressant, parce qu'il y avait toute une partie aussi marketing commercial pour se vendre un peu. Et puis, ça a commencé à durer. Ma femme se demandait quand est-ce que j'allais retrouver. En plus, un artiste, ouais, c'est pas toujours très, très, très évident dans ces métiers-là de trouver. Les annonces, finalement, ne courent pas trop les rues. Et je retourne dans mon école pour aller discuter avec des profs, et je tombe tout à fait par hasard, mais dans un couloir, sur un de mes anciens profs qui me dit « Mais attends, tu sais qu'il y a un annuaire qui a été fait cette année pour les designers intégrés en entreprise. » Je ne connaissais pas. Donc, je vais voir au bureau des élèves, je tombe sur cet annuaire, et je me dis « Allez, je fais systématiquement toutes les boîtes avec des designers intégrés, et puis on verra ce que ça donne, hein, de toute manière, on verra si la pêche sera bonne. » J'ai eu assez peu de réponses, à part justement Villac. Le PDG me renvoie un message en mettant ça tombe bien, notre designer vient de partir. Et vraiment, pile à ce moment-là. Donc, hasard de tomber sur le prof qui me donne l'annuaire, hasard de tomber sur une boîte avec un mec qui était là depuis 13 ans. Donc, c'était quand même pas. C'était quand même effectivement big hasard. Et j'ai postulé là, et sans vraiment trop réfléchir non plus. Et ma femme. Toujours parisienne, elle me dit non, mais écoute, si on doit partir de Paris, super, moi, je suis partante. Ouais, pourtant, partir en province, faut quand même, pour une vraie parisienne, c'est compliqué, hein, c'est un peu le.
Un changement de paradigme, là.
Complètement. Et puis alors, on a regardé sur la carte, il dit, faut quand même qu'on regarde où est-ce que c'est, Villac. Parce que autant les produits, mais tout de suite, j'ai adoré, je m'y ai accroché parce que c'est exactement le genre de projet que j'aime. Autant, effectivement, la région, tu regardes Genève, Lyon, Dijon, tu mets un peu en milieu. C'est au milieu de nulle part. Il n'y a pas de train qui arrive là-bas. Tu es obligé de prendre
je
ne sais combien.
Je me demandais, je me disais comment on fait pour aller là-bas. C'est en voiture, forcément.
Forcément en voiture. Tu peux pas aller en train ou en car ou en autostop.
en autostop pour ton premier jour.
Ouais, c'est ça. Mais c'est fabuleux. La région est super belle. C'est absolument magnifique. Donc, on a débarqué comme ça il y a 17 ans.
Ça fait maintenant 17 ans, d'accord.
Donc, pour te dire combien je suis passionné par mon métier, 17 ans, on arrive dans le Jura, la bouche en cœur, à s'installer à Lons-le-Saunier, préfecture du Jura, il y a 15 000 habitants. Et là, ça a été le début de la galère pour madame.
Le début de là, j'ai pas entendu.
Un peu la galère pour madame.
Ok. Ouais, ah, bah oui, qu'elle trouve un travail.
Elle a quand même quitté son boulot pour moi, m'a suivi dans le Jura pour que je me trouve un boulot. Donc,
ça fait un bon synopsis de film quand même. Ouais, elle a quitté son boulot pour moi, elle est partie dans le Jura.
Exactement, c'est vraiment bien chez les ch'tis. Hein.
Ouais, c'est ça.
Tu pleures en arrivant et tu pleures en partant. C'est exactement ça. Mais non, bah, la première année, c'était génial. Jeune couple, sans enfants, avec plein de nature comme ça. On adore la randonnée, on adore la nature, on en a profité à fond. Et puis, on a eu notre première album là-bas, qui est un produit jurassien, une Lédonienne. C'est comme ça qu'on appelle les habitants de Lons-le-Saunier.
D'accord.
Et au bout de 2 ans, ma femme n'a pas du tout trouvé le boulot parce qu'elle fait pour le coup, elle fait de la fiscalité. Ouais. Et là-bas, bah, t'attends que les gens partent à la retraite pour avoir un poste.
Ouais.
Et un poste dans les plus grosses boîtes, il y a quoi, il y avait 33, les fromageries belles qui font les belles vaches qui rient. Et t'as fait le tour des 2 boîtes qui pouvaient potentiellement embaucher.
Ouais.
Donc au bout de 2 ans chez Villac, j'ai dit à mon boss, bah, soit je me barre dans 6 mois, soit on trouve un moyen que je reste dans la boîte. Et donc, depuis 15 ans, je suis en télétravail partiel, où je vais 2 jours dans le Jura profiter du bon air, et le reste du temps, je suis à la maison à travailler en télétravail.
Ok. Toi, t'es habitué au télétravail, finalement, la pandémie,
ah,
elle n'a rien changé.
La pandémie n'a rien changé, effectivement, à mon rythme. Au contraire, j'ai pu découvrir la joie d'avoir d'autres collègues en télétravail et la joie d'avoir des collègues qui comprennent enfin que déjà, c'est pas la glandouille, faut travailler chez soi, et ils comprennent aussi les difficultés d'être en télétravail, parce que c'est pas toujours simple non plus... Bah, les journées peuvent être un peu longues ou on est un peu désociabilisé, on n'est pas toujours avec des interlocuteurs dans un bureau. Quand on a quelque chose à demander, c'est toujours plus compliqué à distance.
Et tu dois toujours appeler ou attendre
ouais.
une réunion.
Ouais, ouais. Mais le rythme est plutôt bon et puis tout le monde a fini par prendre avec la pandémie. Donc c'est une des grandes joies et des choses positives finalement du Covid, c'est que les mentalités ont beaucoup, beaucoup changé aussi à ce niveau-là.
Ouais, parce que toi, tu dis que tu es en télétravail depuis 15 ans, c'est ça ?
Ouais, 15 ans.
Ça fait 15 ans, ouais. Mais j'ai l'impression qu'il y a 15 ans, le télétravail, c'était pas vraiment... Déjà, même avant la pandémie, j'ai l'impression que c'était pas très évolué en France. Mais alors, il y a 15 ans...
Bah, ça l'était pas du tout. Et, ouais. puis, je remercie mon prédécesseur au design, qui, lui, avait fait la demande, s'était fait jeter comme un mal propre. Et mon boss, donc pareil, j'étais assez couillé là-dessus, et sans sécurité derrière. J'ai dit, mais dans 6 mois, je suis plus là. J'ai mis légèrement la pression. Et puis finalement, il a accepté le truc. Totalement improbable. En plus, un mec vraiment à l'ancienne. Hein. Du coup, j'y croyais pas. Je m'étais dit, bon, pire, on s'installe à Lyon afin de trouver du boulot. Et puis, moi, j'en trouvais derrière dans une agence de design de pub ou un truc comme ça.
Mm-hmm. Au final, tu es resté chez Villac et tu es depuis 17 ans.
Ouais.
Belle histoire.
Voilà. Ouais, ouais, une super, super belle histoire.
Et en termes de juste de ce que tu fais, alors moi, avant de te parler, je t'imaginais je dirais pas une usine, tu sais, j'imagine une petite cabane en train de faire des jouets. Là, maintenant, tu nous dis que
ouais,
tu es quand même en télétravail.
Ça.
Alors, j'imagine bien qu'il y a
un petit lutin, exactement.
Ouais, c'est ça, en fait. Je vais parler à un lutin, il y a le Père Noël qui l'appelle, donc c'est vraiment.
Ouais, c'est ça, quoi. Le Père Noël m'appelle. J'ai affaire au Père Noël, d'ailleurs, il paye mal, le Père Noël, c'est horrible.
Ah ça par contre faut négocier avec lui.
Ouais. Non mais même en entreprise du jouet, faut pas croire au Père Noël, hein. Ça reste une entreprise comme les
ça autres. Ça reste une entreprise.
Mais il faut se battre pour son salaire, etc.
Mais qu'est-ce que tu fais en fait? C'est quoi ton métier de tous les jours? Comment ça a évolué aussi avec le temps peut-être?
Ça a beaucoup évolué avec le temps, c'est pour ça qu'aujourd'hui moi, je suis parti de responsable juste design produit, donc de créer et puis gérer le pôle design chez Villac. Mmh. Pôle design, c'est un grand mot pour parler de 2 personnes au départ. Okay. Où, donc on était 2 à créer des projets. Donc créer, c'est créer des jeunes gammes. Donc voir d'une année sur l'autre quelle gamme on va pouvoir étoffer, quels produits sont demandés par les clients, que fait la concurrence. Donc une grosse étude de concurrence. Mmh. Étape d'avant-projet, où on fait des croquis, où on se valide des croquis, des idées. Donc, c'est vraiment juste des idées en vrac, des listes.
Du dessin.
Ouais, c'est ça. Et puis même des listes de produits, des listes d'idées. En général, on commence avec 300, 400 idées pour l'année d'après. Et au final, on en développe à peu près 80.
OK.
Ce qui est déjà pas mal, hein, pour des petites idées comme ça, c'est énorme.
Et donc en fait, ouais, vous regardez ce que la concurrence fait et vous regardez ce que c'est les enfants quand même que vous ciblez. Comment
non, oui, c'est les enfants. Donc on s'appuie sur des études, on regarde un petit peu ce qu'il fait dans la mode, on va dans les musées, on va sur des salons professionnels de l'ameublement, de l'enfance, mais plein d'autres salons. En fait, c'est une culture générale énorme. Il faut, surtout dans le jouet où tu touches à tout, tu vas dessiner une cuisine, tu vas dessiner un garage, une petite voiture, un xylophone, un piano. Et c'est en ça que c'est hyper passionnant, c'est que je n'ai pas une année sur l'autre qui se ressemble, pas un projet sur l'autre qui se ressemble, c'est tout le temps hyper varié.
Okay.
Plutôt que un designer qui va faire des cuvettes de toilette tous les ans, c'est pas très gratifiant, pas très passionnant à la longue. Et puis une cuvette de toilette, ça reste une cuvette de toilette. Hein.
Ouais,
donc des lunettes, hein, c'est... Ouais, ouais. Même des lunettes, ça reste des lunettes. C'est l'usage est toujours le même. À part quelques concepts en temps plus innovants où tu changes les barres de tes lunettes pour changer de couleur au moment de la journée, tu as peu de latitude à part stylistique. Là, tu as vraiment une ouverture qui est super, c'est qu'on crée vraiment des concepts, même si on ne révolutionne pas le monde du jouet tous les jours. Mais sur chaque projet, on se dit, on va recréer l'ego, on va recréer le concept et, avec un grand C. Ouais, c'est vraiment un truc passionnant.
La finalité de l'emploi, elle est quand même super cool. À la fin, ouais. C'est quand même un jouet dans la main d'un enfant qui va jouer avec, qui va rêver, qui va s'amuser, qui va être inspiré, qui va... Tu sais, moi, les jouets que j'avais quand j'étais petit, je m'en rappelle encore aujourd'hui. Donc, c'est vraiment des objets marquants.
On joue beaucoup là-dessus. On essaie justement aujourd'hui, surtout sur le jouet bois, on s'adresse beaucoup au Quadra parce que c'est ceux qui achètent beaucoup le jouet bois aujourd'hui. Donc, on fait appel beaucoup à des souvenirs, à des jouets qu'on a pu avoir en enfance, des thématiques. Et... Non, c'est beaucoup, effectivement, sur l'acheteur qu'on travaille et sur l'enfant, effectivement, in fine, parce qu'on est là pour apporter un aspect éducatif. Il faut que ce soit ludique, il faut que ça serve à quelque chose, surtout le jouet bois. Il faut que ça se transmette, de la durabilité, plein de concepts et plein de choses qui rentrent dans le cahier des charges au départ.
Et donc, toi, au début, tu étais donc responsable de Paul.
Ouais, responsable design. Et bah, je vais peut-être finir quand même le développement d'un produit parce que là, finalement, on est juste au début du projet. Et,
ouais, après, je me demandais aussi comment... Parce
que là, on en est à peine à 5% finalement du développement du produit. On est juste sur le concept. Donc, il y a toute la partie norme aussi qu'il faut respecter parce qu'il y a des normes de jouets qui sont hyper drastiques. Là, tous nos jouets passent dans les labos pour test avant d'entrer sur le marché, ce qui est plutôt rassurant pour le consommateur. Hein. On n'a pas... Tous les jouets qui sont sur le marché européen et français sont soumis à une norme de jouets européenne et avec des tests qui sont très 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 précis et qui ne sont pas de faire n'importe quoi.
C'est quoi, c'est dangerosité, toxicité?
Oui, dangerosité, les gros dangers pour les enfants de moins de 3 ans essentiellement, c'est avaler un élément, donc s'étouffer, ou s'étouffer avec un élément qui reste coincé dans la gorge, ou s'étrangler avec une ficelle. C'est à peu près les quelques chutes que tu peux avoir quand tu es assis sur un petit porteur à roulettes ou des trucs comme ça.
Okay.
Le reste des dangers, il y en a quand même relativement peu. Et après, oui, il y a tous les tests de toxicité des composants, donc les peintures, les matériaux, quels qu'ils soient, les encres, tout est testé de A à Z.
D'accord.
Et une fois qu'on a fait un cahier des charges commercial à qui on s'adresse, quel type d'enfant, quel sexe, quel type de marché, quel pays, quel âge, quel besoin, quelle fonction, comment il va s'amuser. Donc là, tout ça, il faut le définir précisément donc déjà sur papier. Et après, une fois qu'on a fait tout le tour de ça, à quel prix, évidemment, à quel prix on va vouloir mettre un jouet sur le marché. Une fois que tu as fait le tour de toutes ces questions-là, c'est là où tu as créé avec ces garde-fous, ces contraintes. Donc c'est vraiment le but du designer, c'est que l'artiste, mais en même temps l'artiste qui va répondre à des besoins qui sont définis par tous ces petits points-là.
Ouais, mais c'est en fait il y a le côté artiste, donc il y a le côté aussi imagination, création, mais il y a le côté aussi très terre à terre de, enfin en fait c'est du marketing, c'est savoir quel marché, quel prix, quelle cible.
Oui, tout à fait. On crée pas n'importe quoi. Enfin, on crée des choses aussi qu'on a envie de faire. Hein. Moi, je fais appel tout le temps à des rêves de gamin, en disant qu'est-ce que j'aurais adoré, et on en revient effectivement. Et puis même après quand tu crées, moi il y a des moments quand je crée un garage, un circuit de voiture. Mais je me vois sur le circuit en train de conduire ma petite F1 et je suis dedans vraiment, mais comme un gamin, comme j'aurais pu l'imaginer gamin. Donc il y a vraiment un retour en enfance et faire appel à des rêves très 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 très, très anciens. C'est hyper marrant de faire cet exercice-là.
Et ça prend combien de temps entre il faut qu'on ait les 80 produits et on a les produits?
En général, on travaille comme la mode d'une année sur l'autre. Donc, on est là en ce moment, on est en train de boucler 2021, Noël 2021.
Ah oui, ok.
Donc, tout est prévu en avance et d'ailleurs, tous nos gros clients sont déjà en train de sélectionner, d'après les fiches de nouveautés qu'on leur a envoyées pour l'an prochain, sont déjà en train de sélectionner ce qu'ils auront pour Noël prochain.
D'accord.
En fait, les ventes sont déjà lancées pour Noël, ça n'a pas changé grand-chose aujourd'hui, à part les stocks qu'on peut avoir ou pas avoir. Et on bosse toujours un an en avance. Et suivant les projets, il y en a certains qu'on va créer en 5 minutes. vraiment, mais le truc, ça sort tout seul. C'est une évidence. Après, bon, il y a du métier derrière. Hein. C'est comme, je ne sais plus quel artiste, je ne sais plus si c'était Van Gogh ou Picasso qui avait jamais un sou devant lui, mais qui filait des dessins au restaurateur en échange d'un repas. Okay. Et j'avais entendu une anecdote comme ça où un restaurateur lui dit ah, bah, non, vous l'avez fait en 5 minutes, vous avez eu le repas que je vous ai fait, voilà, ça me met plus de temps. Picasso qui lui répond oui, moi je l'ai peut-être fait en 5 minutes, mais derrière, j'ai une expérience de 30 ans d'artiste pour vous le faire.
Ça, c'est un biais. Y a l'histoire du serrurier. J'aime bien la raconter. T'es devant chez toi, t'as perdu tes clés, t'appelles un serrurier, il met 2 heures à arriver à t'ouvrir la porte, il galère, il sue. Il doit changer des trucs sur la serrure, il n'y arrive pas, il refait. Donc, au bout de 2-3 heures, tu arrives à rentrer chez toi, il te facture 200 euros. Et ensuite, le lendemain, tu es encore perdu, tu es encore devant chez toi, tu as encore perdu tes clés et tu as encore le même problème. Et là, tu as un serrurier qui arrive, sauf qu'il est beaucoup plus senior. Et en 5 minutes, il t'ouvre la porte, il te fait aussi payer 200 euros.
Ouais,
putain,
ouais.
C'est cher quand même pour 5 minutes.
C'est clair. Mais c'est un peu le même ça, truc. Hein. C'est ce qu'on appelle l'expérience, effectivement. Et donc, des projets ouais, qui peuvent prendre 5 minutes, d'autres, il y en a certains, j'ai traîné pendant 4-5 ans.
Oui, à 5 ans sur un seul et même produit.
Ouais, ouais. Alors, pas forcément pour. Soit parce que ça
se prend. Comment
ouais, non, c'est un produit. Ça peut être okay. Un produit. Soit parce que, au niveau design, ça ne sort pas, ça ne veut pas sortir, il n'y a pas l'inspiration. Bah, comme le gars qui écrit un bouquin, c'est la page blanche, et puis ça ne veut pas. Ouais, ça ne veut pas, on va beau essayer, réessayer, ça ne veut pas sortir, c'est pas ce qu'il faut. Ou techniquement, on n'a pas deux fournisseurs qui soient capables de répondre à certains aspects techniques. Et donc, on est trop en avance sur l'idée qu'on a. Et puis, 5 ans après, on s'aperçoit que la technique est arrivée sur le marché. Et on peut le faire comme on veut.
Ouais, j'imaginais ça. Ça doit être frustrant, le côté l'imagination versus ce qu'on peut vraiment faire sur Terre. Quoi. Parce que je me dis, tu pourrais faire des voitures volantes, tu peux tout imaginer.
Ah, bah ouais, c'est le côté justement design technique. Ouais, le designer produit est aussi un technicien. Donc, on fait des plans techniques et on imagine comment va être assemblé le jouet, comment il va être construit, comment il va être produit. Donc, ça aussi, on l'a en tête aussi au départ. Donc, ça passe par une grosse discussion avec ceux qui vont produire. En général, moi, je suis avec le micro-key, le responsable prod, et puis on discute du truc. Et puis, c'est des heures de discussion où il dit « Ah ouais, moi, je pense que je vais le faire plutôt comme ça. » Je dis « Non, mais attends, là c'est vraiment le poil dans la main de la production, vous voulez absolument le faire comme ça pour faciliter la tâche, moi je ne veux pas renoncer à tel élément, vous vous démerdez, vous trouvez une solution pour tel élément.
Ouais. »
Donc c'est un peu un marchandage, effectivement, mais on est un peu les empêcheurs de tourner en rond dans l'entreprise. C'est qu'on pousse toujours les limites plus loin, on ne se contente jamais de ce qu'on a, parce que de toute manière, si tu arrêtes de pédaler, tu tombes. Mais là, c'est mon leitmotiv dans la vie, hein. Faut toujours pédaler, toujours être...
Toujours essayer d'avancer.
Ouais, toujours essayer d'avancer, sinon tu te fais bouffer et aujourd'hui la concurrence est mondiale, t'as pas le choix, il faut être toujours les meilleurs.
Et justement, en ce moment, surtout avec le confinement, on parle beaucoup d'Amazon, notamment pour les jouets. Je me dis, finalement, les jouets, c'est un truc, tu sais, que t'as pas besoin d'essayer.
Ouais.
Tu peux en photo, tu peux l'acheter, donc sur Amazon, c'est entre guillemets parfait parce que bah, c'est rapide, ça arrive vite chez toi. Est-ce que les marques avec lesquelles tu vends, elles font face à cette concurrence? Comment on fait par rapport à ça?
Commercialement, c'est hyper difficile à gérer parce qu'on passe autant par des petits vendeurs de quartier qui aujourd'hui souffrent énormément de la fermeture. J'espère vraiment que vers le 1er décembre, on va rouvrir parce qu'on fait tous le chiffre là, il se fait en ce moment. Hein, c'est 50% de notre chiffre se fait au moment de Noël. Et ouais, j'espère vraiment qu'ils vont ouvrir bientôt. Et à côté de ça, tu as des magasins un peu plus des grossistes spécialistes. Tu peux avoir comme la Grande Récré, Monoprix, Nature et Découverte, Oxybulle. Qui, eux, font du gros chiffre. Donc, déjà, nous, il faut qu'on réussisse à ménager ces gros revendeurs par rapport aux petits. Et à côté de ça, ben, on a notre site web où on vend nos produits.
Vous vendez aussi directement?
Ouais. C'est assez récent. On fait ça depuis maintenant un an et demi.
OK.
Donc, on vend direct sur notre site web. On vend en marketplace sous notre nom sur Amazon. Et Amazon aussi vend, parce qu'on n'a jamais pu leur refuser de vendre. Au niveau de la législation de vente, on n'a pas le droit de refuser à Amazon de vendre nos produits.
D'accord.
Donc Amazon revend déjà du Jack.
Ok, mais eux, c'est un distributeur, c'est pas vous qui dites je mets sur Amazon et ensuite.
C'est un client comme un autre, hein. C'est un client qui.
Ok, donc il y a la marque Amazon qui revend ses produits.
Qui dit moi je veux toute la gamme du Jack, on n'a pas le droit de la refuser.
Ah ouais, ok, d'accord, ok.
Donc il faut ménager effectivement tous ces revendeurs qui n'ont pas du tout les mêmes manières de vendre, pas du tout les mêmes prix, pas du tout les mêmes attentes. pas forcément les mêmes clients, heureusement. Donc, ça permet justement de s'adresser à des clients différents et travailler de plus en plus avec Instagram, Facebook, qui sont des vecteurs de communication énormes sur notre savoir-faire.
Et juste, vu qu'on parle de ça, c'est quoi le site de Villac ou si les gens veulent voir un peu les produits que tu fais?
Ils vont soit sur notre Facebook Villac, en cherchant avec Villac, ils tomberont tout de suite dessus, ou Instagram, villac.com pour notre site web.
Okay.
Et là-dessus, pour l'instant, pour les Français, on fait de la vente en France et l'export, ça va être normalement, on va commencer certainement à vendre à l'export aussi d'ici pour le client final, normalement l'an prochain.
Ok. Et vous vendez dans combien de pays?
On vend dans 50 pays dans le monde.
Ah oui, mais c'est ce que tu parles de, tu sais, on entend une PME, on dit une petite entreprise, mais c'est quand même.
Oui, on s'imagine qu'une PME, effectivement, est très localisée, et même France, c'est difficile de revendre.
Ouais.
En France, je crois qu'on doit avoir 2000 revendeurs, un truc comme ça. Dans le monde, effectivement, on touche 50 pays, dont le Japon, qui est un des plus gros acheteurs de design, enfin de produits français. Ils sont inondés par le marché chinois, donc eux, ils cherchent autre chose. Il y a toujours ce côté très, très cousin du Japon et de la France. On a une fascination mutuelle, que ce soit en gastronomie, en art, en design. Il y a même pour le jouet, on sent qu'il y a cette attirance
c'est exceptionnel.
Qui marche vraiment bien.
Ouais, tu sais que tu dis mutuelle, parce que nous aussi, j'ai l'impression que les gens adorent le Japon, les Français.
Ouais.
On adore la culture japonaise, mais moi, j'aimerais bien y vivre. Et à l'inverse, eux adorent notre culture.
Oui, moi, je parle vraiment de mes cousins japonais. Il y a une connivence, il y a un truc, il y a un fil conducteur entre ces deux pays. On s'est dit, c'est marrant. Donc, je pense que le côté raffiné, le côté aussi art culinaire qui nous réunit. Hein. On est deux pays qui font la gastronomie la plus fine au monde. Donc, je pense que ça nous réunit pas mal. Mais et puis on bosse avec des artistes japonais. Alors ça, c'est aussi une autre partie de mon boulot. Où je travaille avec des artistes extérieurs, donc qu'on cherche pendant. Ça peut prendre des années pour tomber sur ceux avec qui on veut bosser.
Et ça se passe comment, ouais? Dis-nous.
C'est des coups de cœur, c'est des beaucoup de recherches sur le net, sur tous les books en ligne qu'il peut y avoir d'artistes aujourd'hui, donc ça, le net est vachement intéressant pour ça. Et ça peut être des rencontres, des gens qui nous contactent, des distributeurs justement qui nous disent tiens, on bosse avec un tel artiste sur tel projet, est-ce que ça vous intéresse de bosser avec lui?
Mais donc là,
on
en fait,
bosse...
Pardon, vas-y, excuse-moi.
Là, on bosse autant avec un artiste japonais qu'une suédoise, une finlandaise. L'an dernier, on a commencé à bosser avec une américaine. Quelques artistes français, évidemment, donc quelques-uns. On ne va pas chercher que à dire. Mais ce qui nous permet de travailler sur vraiment des pattes artistiques sur certains jouets pour lesquels on a besoin vraiment de compétences complémentaires.
Et à quel moment ils interviennent? Parce que donc, il y a le côté, j'ai bien compris, où vous voyez le besoin avec de la culture, d'aller voir les salons, les études marketing, etc. Et ensuite, vous avez votre produit et c'est là que vous le donnez. Enfin, vous avez
en général, c'est à partir du moment où on a créé notre to-do list de produits, qu'on s'est arrêté, on a arrêté vraiment notre liste de 80-100 produits, on regarde quel artiste va pouvoir travailler certains projets pour la partie graphique ou enfin, illustration. Et ou à l'inverse, eux nous-mêmes nous proposent des projets en disant tiens, j'ai une telle idée. Donc c'est toujours dans les deux sens, et puis c'est hyper riche parce que c'est des discussions sans fin, pareil, sur des projets où on s'échange. Mais il y a une vraie passion aussi, eux, pour notre marque.
Ça me donne envie d'être en réunion avec vous et voir comment ça se passe, les échanges avec des artistes.
Et des tests produits aussi, ça c'est marrant. Hein, une année,
le produit est arrivé.
Enfin, quand les produits arrivent, pareil, on est comme des gamins. Hein. Là, avant que tu m'appelles, j'étais même en train de faire une espèce de mécano en bois où je transforme une boîte à outils avec des aimants mécano en bois, en camion, en grue et en... Je ne sais plus quel est le troisième truc, en fusée spatiale.
Et en fait, tu es encore un enfant, c'est ça?
J'ai joué un peu cet après-midi. Si seulement c'était comme ça toutes les journées. Il y a une partie c'est 10% du... Le plaisir côté artistique, c'est 10% de mon poste. Après, le reste, il y a beaucoup, beaucoup de travail en amont et en aval.
Mais à la fin, tu vends quand même un produit. Donc, il y a aussi un côté très terre-à-terre, ce que je disais tout à l'heure.
Après, je parle du principe que si on s'amuse, nous, les enfants s'amuseront. Hein.
Ah, exactement.
Si on s'emmerde dès le départ, c'est que c'est pas...
C'est qu'il y a un problème. Ouais. Et est-ce que, parce que donc, le chemin, c'est on fait les études, on regarde les études marketing, on s'intéresse et là, d'un coup, il y a le produit qui arrive. Mais est-ce qu'il n'y a pas des fois le chemin inverse de « j'ai une idée » je sais pas, ce jeu, je pense, ça serait génial. Ça sort de ma tête. Comment on le teste face au marché? Est-ce qu'on, du coup, là, on regarde les études et on regarde si ça match avec les études?
Si ça marchait aussi bien, on serait tous millionnaires. Et tous les produits d'ailleurs dans le monde sont conçus comme ça. On aura beau faire des études dans tous les sens. En général, nous, les idées, donc on les débat beaucoup avec les commerciaux. On les débat déjà beaucoup au niveau du bureau d'études avec tous les designers et puis l'équipe marketing. Mm-hmm. Pour finir peut-être mon rôle, en fait, au fur et à mesure des années, il y a 15 ans, le jouet, tout ce qu'on pouvait sortir, je dirais, était acheté. Parce que il y a une très très forte demande, peu de concurrence finalement en France, donc on était tranquille vraiment sur le marché. Aujourd'hui, on est tellement concurrencé que le marketing est vraiment arrivé en force dans notre travail, la communication aussi, et donc j'ai repris aussi cette partie-là au fur et à mesure de mon, sans forcément y connaître grand-chose. J'ai repris cette partie-là et aujourd'hui, je la gère aussi donc avec l'équipe marketing.
Comment t'as fait pour un peu apprendre le marketing sans avoir de base, comment tu t'es débrouillé dans ce nouveau monde?
Il a fallu embaucher des gens compétents, s'initier à ça, et puis faire preuve de bon sens, regarder ce qui se fait, être à l'écoute. Et puis, de toute manière, dans mon métier, si tu n'es pas à l'écoute, ce n'est même pas la peine.
Ouais, j'ai bien compris qu'il faut...
T'étais toujours les oreilles grandes ouvertes, et les yeux, surtout les yeux grands ouverts, à toujours, effectivement... dénicher le petit motif qui est à la mode, la bonne idée, la petite parole d'un client magasin, d'un collègue qui dit « Ah bah tiens, je pensais à tel truc ». Là, tu rebondis. Et c'est, en rebondissant, tu arrives souvent à un produit qui est le plus génial, plutôt que souvent des études de marketing très très poussées, où là, tu vas tout caler. Et puis, tu t'aperçois finalement que le produit qui croyait un maximum en études, en disant « Bon, ça c'est vraiment calé, sérieux », c'est pas celui qui se vend le mieux. Alors que le truc le plus spontané, qui est une évidence, ça fait un carton.
Ouais, c'est compliqué. Hein. Du coup, c'est compliqué de savoir trop juste.
Ah, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Il n'y a absolument pas de règle. Donc, c'est paniquant. C'est paniquant, effectivement, chaque année, de se dire mais qu'est-ce qu'on peut encore inventer, améliorer. Mais à côté de ça, c'est hyper passionnant parce qu'on ne s'en meurt jamais.
Ouais, j'imagine bien. Moi, ça me donne envie de faire le métier là depuis tout à l'heure. Je me dis, j'aimerais bien moi aussi créer des jouets. Je ne sais pas trop dessiner, mais bon, je peux apprendre.
Ouais. Après, ouais, non, mais c'est sûr que par rapport à d'autres métiers où les gens s'ennuient, on ne s'ennuie absolument jamais. Et les partenariats et puis la qualité de notre production, on a un label d'ailleurs qui a été décerné aux trois entreprises, donc Villac, Petit Colin et Je Jura, qui est le label EPV, Entreprise du patrimoine vivant.
D'accord.
Ça, c'est un truc qui a dû être. On a dû l'avoir il y a une dizaine d'années. C'était au moment où ils l'ont lancé. C'est le gouvernement qui a lancé ça. Donc, on a beau critiquer les gouvernements en place. Il y a quand même des belles idées qui sont faites. C'est un label qui récompense un savoir-faire très ancien et un savoir-faire qui continue à être perpétué dans les entreprises en France. Je crois aujourd'hui, on doit avoir peut-être pas loin d'un millier d'entreprises qui sont labellisées comme ça en France.
D'accord.
Donc, ce qui met vraiment en avant ce savoir-faire. Et c'est chouette de voir qu'effectivement cette production France est quand même toujours reconnue, même si c'est pas toujours évident de continuer à produire en France. Mais en vrai,
Et les coûts et ouais. la communication. Et en parlant de communication, justement, quand on tape un peu Villac et quand on tape ton prénom, on voit qu'il y a eu un lancement avec Martin Fourcade, il me semble, un jouet.
Justement, j'allais t'en parler. C'est super collaboration. Donc il y a eu ça qui. C'était très drôle, c'était juste à un moment des JO. C'était quoi les JO? C'était à...
Alors les articles, il me semble qu'ils dataient de 2018, mais je me...
Oh oui, c'est très récent, mais j'arrive plus à me souvenir du pays. Où est-ce qu'il allait faire...
Où c'était? Je sais pas.
Ouais, je sais plus si c'était en Russie ou je sais plus lequel.
Je sais plus, ouais.
Je sais plus. Super JO, où il a gagné 3 médailles d'or, je crois, un truc comme ça.
Ouais, il y a un moment, je parlais de Martin Fourcade.
Je me souviens encore, on était au ski, rentré du ski, avec mes enfants, on était devant la téloche, mais vraiment, c'était hallucinant de voir ce géant battre des records et tout le temps devant tout le monde. Et je ne sais plus combien il a eu de clubs de cristal de champion du monde. Et pour l'instant, je crois que c'est le seul qui a autant de récompenses dans les sportifs français. Et dans sa discipline, pour l'instant, à part son concurrent Johannes Bö, là, qui va certainement le déplacer un jour, là, pour l'instant, il est encore le plus grand champion dans sa discipline. Et un mois, deux mois après, je reçois un message d'une de mes collaboratrices à l'export et qui me dit « Tiens, j'ai un truc pour toi. » Je vois un mec qui arrive, marqué « Bonjour, je suis Martin Fourcade. »
Ah, c'est lui qui est venu.
Qui nous met un message. Je ne sais pas si vous voyez qui je suis. Je fais du biathlon. Donc il se présente, mais avec une modestie impressionnante. Ça m'a fait marrer. Je lis le truc, je me dis, putain, mais attends, c'est le même mec que j'ai vu à la télé. Et franchement, sur le moment, je me suis dit, attends, c'est l'export qui se fout de ma gueule. Ils me font une blague.
Une farce, c'est le 1er avril.
Ouais, c'est le 1er avril. Donc je vais les voir, je dis, mais c'est quoi ce truc-là? Et en fait, la femme qui était à l'export à l'époque, en fait, belle-sœur de Quentin Fillon-Maillet, je crois que c'était à peu près ça le lien. Okay. Quentin Fillon-Maillet, qui est un autre champion de biathlon, un peu dans l'ombre pendant un moment de Martin Fourcade, et qui lors d'une discussion avec Martin, Martin lui dit, ouais, j'ai plein de photos de femmes, de petits gamins qui sont devant leur télé avec un manche à balai et qui m'imitent devant leur télé, j'ai plein de photos qu'on m'envoie, j'ai vraiment envie de faire un jouet pour ces gamins-là.
Ah, c'est énorme.
Et Quentin Fillon-Maillet me dit, mais attends, mais moi je connais, moi j'ai une de mes belles-sœurs qui bosse chez Vina, contactez, je suis sûr que ça va leur plaire. Et du coup, je lui réponds, je lui dis, oui, bah, Martin Fourcade, oui, on voit bien qui vous êtes, on était comme des dingues devant la télé, hurler comme des putois pour que tu gagnes toutes tes médailles, on serait super content de faire un projet avec toi. Je laisse mes coordonnées, en général, tu dis, ça passe par des agents qui sont des intermédiaires, parce que la plupart des contrats, c'est souvent avec des agents. Et je laisse mes coordonnées à me dire, bon, j'ai contacté par l'agent. Le lendemain, coup de fil, bonjour, c'est Martin. Donc je l'ai direct au téléphone, je tremblais comme une feuille, je me disais, j'ai jamais vu un champion comme ça au téléphone, c'était astronomique. Non, c'était très drôle. Et du coup, il m'a exposé son projet, on a discuté pendant une heure, absolument lui, passionné par le projet. L'après-midi même, je lui fais des croquis, et puis on voit les projets, il me dit, ouais, bingo, c'est exactement ce que je veux. Et puis on a conversé comme ça régulièrement pour faire le projet.
Ah, c'est sorti comme ça un après-midi il avait vraiment l'idée de ce qu'il voulait faire. Toi, tu l'as.
Ouais, il m'a dit, moi j'aimerais faire une petite carabine miniaturisée avec vos moyens et puis un petit pas de tir. Et puis, qu'est-ce que tu peux me proposer? Je lui dis, attends, il n'y a pas de souci. Je te fais des croquis, j'ai envoyé des croquis. Donc, bingo, c'est ce que je veux. Et puis, donc, on a bien sûr peaufiné le projet, mais les premières idées étaient dans ce qu'il voulait. Et ce qui m'a fait plus marrer, c'est que je lui envoie un proto un jour pour qu'il le teste. Un dimanche matin, il m'envoie un texto, il est en train de tester dans sa cuisine. C'était hyper marrant, c'était vraiment sympa. Et donc, pour te dire, ouais, vraiment un sportif hyper accessible, hyper vraiment adorable. On est allé le voir une fois sur une compétition, il nous a reçus après à l'hôtel, toute la famille. Il était en train de se bouffer un pot de fromage blanc devant nous pour récupérer. Et on a papoté comme si on était des vieux potes depuis des années avec lui. On est resté une ou deux heures à papoter avec lui.
Et c'est énorme parce que c'est vraiment son rêve. Ouais, c'était. Il a voulu ce petit jeu, ce jouet. Il est venu,
c'est
il a
ça, créé
ce
ouais. jouet. C'est... Ouais, exactement.
J'imaginais, ça doit être les agents, comme tu dis. Il doit avoir une idée marketing derrière. Il doit se dire, ça va faire de l'argent, j'en sais rien. Non,
c'est ouais, mais alors là-dessus, voulu, hein, bon, évidemment, on lui reverse une part des. Ouais. Une partie des ventes.
Mais la volonté à la base.
La volonté, c'est clairement se faire plaisir comme rêve de gamin aussi dans sa tête et faire plaisir à ses petits fans. Hein.
Waouh, c'est une belle histoire.
Ouais, vraiment belle histoire et des beaux partenariats. Et le deuxième partenariat absolument magnifique, donc qui reprend finalement ce que je te disais sur le label EPV, c'est que donc notre production française qu'on essaie de maintenir coûte que coûte malgré la concurrence et même si c'est compliqué, il y a l'Élysée qui a lancé une licence, mais un partenariat avec la marque Élysée qu'ils ont créé pour faire des travaux dans l'Élysée même, parce qu'il y a énormément de choses je crois qu'ils ont un budget de 100 millions pour pouvoir faire toute la réflexion de l'intérieur de l'Élysée. Parce qu'il y a plein de choses qui ont vieilli, qui n'ont jamais été entretenues.
Ah, ça n'a jamais été touché.
Ouais. Donc ils se sont dit, on va créer un espèce de partenariat de marque Élysée, comme peut le faire d'ailleurs la reine d'Angleterre avec leur licence Reine d'Angleterre. Avec l'Élysée, donc ils ont fait un appel à projet dans différents domaines. Donc nous, on a répondu à cet appel. Donc ils nous ont sélectionnés pour faire les produits Élysée. Donc là, pareil, j'ai été reçu à l'Élysée même avec le directeur de création de l'Élysée, où on a discuté des projets, où on a regardé comment on allait faire tous ces petits projets, et avec plein de petites anecdotes marrantes, notamment... Donc, on a travaillé sur 7 projets. Il y a un avion présidentiel, une voiture, un petit coq qu'on a appelé Cocorico. Je me disais, ça passera jamais, si. Bon, ils ont gardé le nom Cocorico, donc c'est sympa. Petit parapluie, raquette de plage, le chien Nemo. Alors, chez le chien Nemo, c'est le chien présidentiel qui a été adopté à la SPA par le couple Macron.
D'accord.
Donc là, je te disais, curiosité et culture générale, je suis allé sur le net, je suis allé regarder comment était le chien, la vie du chien, ce qui m'a permis de voir d'ailleurs des vidéos hyper marrantes où tu vois Macron en pleine réunion et t'as le chien qui arrive dans les bureaux, qui commence à se faire bon vieux pipi contre un meuble ancien, et t'as Macron qui essaie de se retenir de rire parce qu'il sait qu'il est filmé en même temps. Et alors le chien qui fait n'importe quoi à côté, c'était absolument hilarant. Et donc, ouais, c'est rigolo parce que ça m'a permis de voir comment est un avion présidentiel, quel type d'avion ils ont, quelle voiture il a.
Il faut que tu comprennes tout pour faire vraiment le...
Ouais, il faut faire quelque chose qui soit ressemblant et puis le décliner et puis le mettre à la sauce Villac et puis le faire avec les moyens qu'on peut avoir avec le jouet et la faisabilité.
Et c'est quoi la sauce Villac? Tu parles de la sauce Villac, mais...
Ouais, la sauce Villac, oui, bah, c'est un esprit. Chaque entreprise a vraiment une âme. Quand tu vois des jouets Villac, il faut qu'on se dise, tiens, c'est du Villac par rapport à nos concurrents. Et je pense que là aussi où je suis à l'aise, c'est que ça correspond pile poil au type de design que j'aime beaucoup. Donc c'est pour ça aussi que je suis resté aussi longtemps, c'est que je suis à l'aise, je ne suis pas contre nature. Et tous mes collaborateurs, pareil, que c'est des gens qui. Pas qui sont dans le moule, mais qui sont vraiment dans cet esprit de cette entreprise qui est ancienne. On va fêter 110 ans l'an prochain, depuis 1911. Donc, c'est vraiment une âme qu'on respecte de tous les artisans qui bossent encore aujourd'hui en perpétuant le laquage au trempé, en vendant.
Ouais, c'est ça, donc c'est la matière utilisée. C'est la matière, c'est l'odeur, je ne sais pas, c'est quoi qui. Tu sais, quand tu touches un produit Villac ou un jouet que tu fais, comment on sait que c'est du Villac exactement?
Vraiment, les jouets emblématiques, c'est du bois massif laqué. Et laqué d'une manière que personne ne fait aujourd'hui, c'est. T'imagines une planche de fakir. Donc, il y a plein de poux dessus. On plante nos pièces en bois dessus.
Ouais.
Et après, c'est totalement immergé dans la laque.
Okay.
Donc, vraiment, un bain de laque. Ça remonte tout doucement pour que la laque s'écoule. Et le travail du laqueur, c'est de retourner après les pièces au fur et à mesure dans les racks pour que ça sèche, pour que la laque s'écoule vraiment bien autour. Donc, un jouet Villac, c'est d'ailleurs Villac, c'est la contraction du nom Villet et Lac, qui était le fondateur de cette entreprise.
Et ça, c'est fait en France?
C'est en France, oui. Ouais. Toute cette partie traditionnelle donc, est totalement faite en France et on continue à le faire en France et jamais, jamais au Grand Jalon, on ira faire ce type de technique ailleurs.
Ah, c'est vraiment la clé de votre succès.
Oui, tout à fait. Bah, sur toutes nos gammes premium, c'est la clé de notre succès. Et puis tu vois une voiture par exemple derrière ou l'avion, comme ça avec ce procédé qui est vraiment unique et on est les seuls à le faire comme ça.
Et je me demandais, moi je travaillais à Disney avant et il y avait beaucoup de difficultés à... Tu sais, il y avait 500 métiers différents avec des artisans vraiment à des techniques très spécifiques. Et un des problèmes qu'il y avait, c'est trouver la main-d'œuvre, trouver les gens qui ont encore ce savoir-faire. Ouais. Est-ce que vous faites face à ce problème ou pas?
Ah, mais c'est extrêmement compliqué. Déjà, engager du monde dans le Jura, c'est très compliqué.
Ouais.
Et encore plus de la main-d'œuvre un peu qualifiée, c'est compliqué aussi. On a juste quand même la chance d'avoir un lycée du bois à Moirans-en-Montagne, là où est situé Villac, qui apprend à des jeunes les métiers effectivement de la tournerie, de la tabletterie, qui sont les métiers qui nous intéressent. Mais rares sont ceux quand même qui vont dans les industries PME. D'accord. Malheureusement, il y en a beaucoup.
Pourquoi ils vont où?
Ils vont dans d'autres secteurs. Malheureusement, il y en a certains. Ils vont être des monteurs de cuisine à domicile IKEA ou des trucs comme ça. Ou, à l'inverse, faire des métiers, entre guillemets, plus nobles, donc pas sur l'industrie, où ils vont s'orienter sur la marqueterie, l'ébénisterie, des choses beaucoup plus pointues. L'entre-deux de notre industrie est difficile. Là, c'est difficile de capter des gens complètement.
Ah, vous êtes placé entre deux. Ça,
ouais, c'est ouais. Donc, on essaie de transmettre un peu ce savoir avec des gens qu'on peut embaucher, mais c'est loin d'être évident.
Et toi, tu as fait un peu, t'as un peu testé le métier, voir un peu comment ça va.
Ouais, moi, c'est vraiment, on comprend des techniques, on comprend des métiers que si on le fait soi-même.
Putain, ça va tellement bien.
Du coup, j'ai essayé le laquage, je m'amuse tant à tourner des pièces à la main, sur des tours à bois, j'ai essayé la tampographie. Tampographie, c'est marrant, c'est à la fin, donc quand les pièces sont laquées, pour mettre des yeux, pour mettre des décorations sur les jeux, on utilise un procédé qui s'appelle tampographie. Donc t'imagines une plaque en métal qui est micro-impressionnée avec le motif qu'on veut imprimer, un gros godet d'encre qui est dessus, qui vient déposer une fine couche d'encre, et un gros tampon qui vient chercher et qui va aller taper sur la pièce elle-même.
Ah, trop bien.
Donc là, pareil, c'est hyper magique, hein, comme truc, c'est hyper marrant.
Putain, ça, tu vois, c'est énervant avec cette pandémie. Bon, déjà, je vis au Canada. En plus de ça, je dois faire toutes les rencontres sur Zoom. Mais je me dis, j'aurais tellement aimé qu'on mette le micro à l'endroit où tout est fait et qu'on discute à cet endroit-là pour avoir tout l'environnement.
Ah ouais, bah là, dans la tonnerie, on s'entendait plus.
Ouais, bon, dans une salle.
Mais ouais, non, mais c'est clair qu'effectivement, avec les odeurs, le bruit, rien que tu connais quand tu entres dans la fabrique, dans l'atelier, tu sens vraiment les odeurs de copeaux, de bois, de. En plus, c'est vraiment. Ouais,
la chaleur,
le
bois,
ouais, c'est ça, t'es vraiment dedans. Et c'est une odeur vraiment spécifique. Ouais.
Et tout à l'heure, tu parlais des noms que tu donnais aux jouets pour le gouvernement, pour l'Élysée.
Ouais.
Comment on trouve ces noms aussi? Est-ce que tu l'as sorti comme ça, non? Mais,
ouais, en général, c'est des bonnes rigolades entre collègues.
Ok, ça sort vraiment.
Ouais, c'est... on essaie de trouver une certaine cohérence quand même sur nos jouets. En général, c'est un peu la récréation où on sort des gros délires. C'est souvent très graveleux avant de retourner à être un peu plus raisonnable.
Ouais. J'imagine
on
bien.
On sort des conneries absolument énormes. Mais c'est... Ouais. Comme même quand on teste des jouets, hein, on avait quelques années, on avait sorti une petite arbalète en bois. Pour le tester, on s'est coursé dans les couloirs, on s'est balancé des flèches. Hilar, pendant que les comptables dans leur bureau commençaient à nous demander de nous taire, c'est tout téléphone. Mais ouais, c'est sympa. C'est quand même des belles.
Ouais, parce que toi, tu as la partie. Ouais. Toi, tu es adulte et il faut donner le nom comme si. Enfin, faut réfléchir comme un enfant, j'imagine.
Un peu, ouais. Et puis trouver un nom un peu marketing qui sonne bien,
qui
soit rigolo, qui se démarque, ouais, et qui puisse marcher aussi un peu à l'international. Ou,
ouais,
il y a un de nos best-sellers qui s'appelle le Touche-et-Trouve. Touche-et-Trouve en. Tu peux te demander ce que c'est un système où tu vas tâter des pièces dans un petit réceptacle à l'aveugle pour deviner quelle pièce il y a dedans.
Ok. Ah oui, d'accord.
Le « Où t'es caché », qui est tout en pareil, écrit en tout attaché, donc c'est un des noms qu'on a trouvé pour un autre produit. Pareil, il faut retrouver des pièces dans un mélange de pièces. Donc des petits noms qu'on trouve comme ça pour se chercher, on est passé peut-être par 20, 30, 40 noms différents avant de tomber sur le « Où t'es caché ».
D'accord. Et toi, donc, je te disais, avant qu'on enregistre, qu'est-ce que tu as commandé à Noël?
Je t'ai répondu au début, ouais, avant qu'on enregistre, des enfants bien sages, comme le vœu de tous les parents. Non, moi, mon vœu le plus grand, c'est déjà que tous les commerçants puissent rouvrir au moment de Noël, parce que franchement, ça va faire du bien à tout le monde. Et quand, ouais, le plus beau cadeau qu'on ait, c'est que le vaccin arrive vite et qu'on trouve tous une vie normale. Quand même, parce que là, ça devient long, ça devient dur, et je pense que autant... Je peux pas me plaindre, on a une industrie nous quand même qui malgré tout ne peut pas se plaindre. On a continué à vendre quoi qu'il se passe cette année, les enfants, malgré tout. Les gens continuent à commander pour les enfants. On n'est pas un secteur trop touché. Moi, pour tous les secteurs du spectacle, pour tous les restaurateurs, j'ai un copain qui a ouvert un resto juste avant le Covid.
Ah ouais, en plus les vols de trésorerie.
C'est terrible, quoi. Et pour tous les commerçants qui ont dû fermer, je leur souhaite qu'une chose, et c'est mon cadeau que j'aimerais pour Noël, c'est vraiment ça, quoi. Trouve une vie normale.
Ouais. Et il y a deux questions que je pose toujours en fin de rencontre. La première, c'est si tu voyais le petit Éloi, tu me disais que tu n'étais pas trop bon à l'école, enfin, tu n'aimais peut-être pas trop l'école, qu'est-ce que tu pourrais lui dire si tu le voyais là?
Le petit Éloi, je lui dirais, aie confiance et ta bonne étoile te. Ta bonne étoile te suit et puis ça va bien finir par marcher. Et que continue sur tes passions, en général, ça paye les passions. Et surtout, crois en toi, crois en ta bonne étoile, crois aux signes. Je pense que les signes, effectivement, et crois aux personnes que tu vas rencontrer. Je pense effectivement, quand je t'ai dit que j'ai rencontré un professeur à l'instant T qui m'a emmené sur la bonne voie, c'était le hasard pur. Je pense qu'il y a une bienveillance là-haut qui nous fait qu'on tombe sur les bonnes personnes. Et que,
faut foncer. Hein.
Faut foncer, exactement. Faut croire en ses rêves. Et puis,
faut pédaler.
Je t'ai pas parlé de mon entrée en école d'art, mais ça a été pareil. J'ai cru en ma bonne étoile et pourtant c'était totalement inconscient. Je n'ai présenté que deux écoles et j'aurais pu me foutre lamentablement. Mais non, j'y ai cru. C'est tout le point. J'étais persuadé que j'aurais cette école.
T'avais pas peur? À un moment, tu t'es pas dit, mince, je fais peut-être une bêtise.
Quand tu commences à attendre les résultats, ouais.
Ouais, ouais, parce que c'est la fin, tout est fermé, enfin, les inscriptions sont fermées.
Ouais, t'as lancé les dés, t'as passé tes concours dans l'entrée, et puis t'attends, et puis là, tu te dis, j'ai peut-être fait le con, j'ai peut-être pas présenté assez de choses. Mais tellement à fond et ça a été toujours ça. J'ai toujours été très à fond sur ce que je fais, en y croyant, bon, pas forcément totalement inconscient, il y a toujours, c'est toujours un peu raisonné par rapport à mes capacités. Mais je pense qu'il pareil, il faut se dire connais-toi toi-même et tu verras loin. Je pense qu'à partir du moment où tu connais tes forces, tes faiblesses, on en a tous, va sur la bonne direction sur tes forces et tes faiblesses, fais-en des forces aussi.
Ça, je pense que c'est vraiment intéressant ce que tu dis de connaître toi-même, connaître tes forces. Et si tu connais tes forces, fonce dans tes forces et améliore-les un maximum. C'est un peu ce que tu as fait.
Ouais. Mais même les faiblesses, hein. Moi, il y a plein de trucs sur lesquels je ne suis pas compétent.
Connaître tes faiblesses.
Et c'est ça. Et quand tu connais tes faiblesses, tu les tournes à ton avantage. Ça restera toujours une faiblesse. Mais donc, te lis clairement.
Et normalement, je pose les deux questions, mais là, il y a quand même un truc qui me rend curieux. Tu disais que tu n'étais pas très bon à l'école ou que tu n'aimais pas trop l'école, tu as plutôt le côté artiste.
Ouais, c'était catastrophique l'école. Enfin, catastrophique, non. Je suis méchant avec ce que j'étais. J'étais pas du tout scolaire, je détestais ça, je m'ennuyais. Les seules matières qui m'intéressaient, c'était le dessin, la musique et le sport.
Et ça, j'ai l'impression que c'est des matières qui sont assez. Pas mal vu, mais d'évaluer, on dit bon, bah, ça c'est
oui,
drôle, quoi, cool pour s'amuser.
Complètement.
Et comment tu l'as vécu? Est-ce que tu l'as mal vécu de dire je suis très bon manuellement, j'ai une créativité dingue, je suis très bon en dessin, en art, mais à côté de ça, je suis pas bon dans les matières où je suis censé, entre guillemets, hein, être bon?
C'est mal perçu, c'est mal récompensé, c'est mal enseigné, et puis même l'enseignement en général, je trouve mal foutu en France. Ça pourrait être tellement ludique, ça pourrait être tellement mieux enseigner avec joie, avec bonne humeur, avec pédagogie. Je suis sûr que des élèves comme moi, mais seraient premier classe, quand ils auraient été premier classe, si vraiment l'école avait été mieux faite. Là, il y a vraiment des choses à voir. Et même l'autre chose, moi, je trouve que l'apprentissage qui est énormément valorisé en Suisse, en France, on appelle ça des voies de garage. Mais non, je trouve ça absurde. Il n'y a pas mieux que ces voies d'alternance où, on apprend des métiers en même temps qu'on apprend ce qui se passe à l'école. Je trouve que c'est une des meilleurs apprentissages qui soit. On accueille maintenant souvent les alternants chez Villa parce que je trouve que ça a une vraie, vraie valeur. Et on voit éclore des jeunes justement grâce à ça. Et c'est top. Hein.
Et comment toi, tu l'as vécu justement comment tu t'es senti à ce moment-là quand tu étais étudiant?
Oh, mais comme un poisson dans l'eau, à partir du moment où j'étais dans la section.
Ah, donc, mais avant, tu sais, au collège, au lycée, où tu devais avoir des maths, physique.
Jusqu'au lycée, j'ai hyper mal vécu parce que j'y arrivais pas, et puis ça me passionnait pas, et puis c'était contre nature. Et puis, je remercie ma mère qui a été une patiente angélique avec moi. Et je pense sans elle et son aide, j'aurais pas été aussi loin, et probablement pas. J'aurais certainement coulé avant. Et c'est important. Et puis, c'est chouette d'avoir des parents aussi qui sont présents parce que je pense que tout le monde peut pas dire ça. Et à partir du moment où on est, il faut, je pense pour les parents aussi, bien qu'ils comprennent qu'il faut cultiver les passions pour des enfants comme j'ai pu être. Enfin, le fait que les parents m'aient mis assez rapidement dans la musique et les cultiver, bah, ça m'était vraiment une belle bulle d'oxygène.
Ouais, la bulle d'oxygène, c'était après l'école quand tu retrouvais que tu t'épanouissais complètement, que tu travaillais là où tu étais bon.
Ouais. Et puis, alors, avec une supérieure, c'est là où je me suis révélé. Hein. Du 10-0-0-1 que j'ai eu à mon bac parce que ça s'est passé les chauds sous les fesses.
C'est passé au top.
Ce qui était d'ailleurs une preuve d'intelligence de ma part, je faisais l'effort juste qu'il fallait pour passer à 10.
C'était très précis.
Très précis, exactement. Après, en études supérieures, j'étais dans les têtes de classe parce que j'adorais ça. Et donc, c'était qu'une question d'adorer ce qu'on fait, c'est tout.
Et la dernière question, c'est quoi les trois valeurs qui ont guidé ton parcours, les trois valeurs que tu essaies de respecter le plus possible?
Honnêteté, être très honnête avec les autres, être vrai avec soi-même, avec les autres. Je suis très sensible à ça. Et puis, au niveau du boulot, pareil, mes collaborateurs, je suis très sensible à ceux qui sont vrais. Et c'est d'ailleurs tout de même, mes collaborateurs qui sont encore dans l'équipe aujourd'hui, c'est ceux justement qui partagent cette vision. L'humour. Alors franchement, moi, l'humour, ça a été... et pourtant, Dieu sait que j'étais susceptible enfant. Hein. Probablement parce que j'étais pas forcément bien dans mes baskets, hein, le fait que je réussissais pas trop en classe. Et c'est un leitmotiv aussi à la maison. Moi, ça, pas de vie sans humour. Donc, on se marre tout le temps, on raconte plein de conneries en permanence. Je chambre tout le temps mes filles, j'en prends plein la tête aujourd'hui. Parce que tant quand elles étaient petites, il n'y a pas de trop répondant.
Maintenant
qu'elles sont 17, 13 et 11 ans, j'en prends plein la tête en permanence. Mais on se marre bien, c'est génial. Moi, je trouve à partir du moment où tu sais rire des autres, tu sais rire de toi-même, mais déjà, tout est
en paix.
Moi, tu es en paix avec toi-même. Et puis, c'est là où tu te connais bien.
D'accord. Donc, honnêteté. Ah,
ouais.
Amour, est-ce qu'il y en a une troisième
humour.
Ou il n'y a pas obligatoirement une troisième?
Oh, la troisième, bah, amour ouais, ouais, j'ai un fond assez chrétien aussi dans ma vie. Hein. Je trouve que l'amour qu'on peut donner au quotidien, l'amour qu'on reçoit, c'est la vraie vie. Quoi. Pourquoi être méchant avec les autres et pourquoi recevoir de la méchanceté? C'est tellement mieux à faire.
Ouais. En tout cas, je suis content parce que j'ai l'impression d'avoir parlé avec un enfant qui n'a jamais grandi.
T'inquiète ça aussi.
Tu dégages une forme de... En fait, tu dégages ce que tu fais, tu dégages ton métier, tu dégages cette magie. Je sais pas, j'ai eu des étoiles dans les yeux pendant toute notre rencontre. Donc, merci beaucoup.
Ouais, bah merci à toi. Merci beaucoup pour ce bel échange.
Ce podcast étant une histoire commune entre ses auditeurs et ses invités, je voulais vous remercier pour votre écoute. Aussi, vos notes, commentaires ou encore le bouche-à-oreille sont au cœur de la réussite de cette aventure. N'hésitez donc pas à partager votre avis.